C'est au tour du ténor allemand Jonas Kaufmann. Je suis allé le rencontrer il y a quelques semaines dans sa loge du Palais Garnier à Paris, entre deux représentations de Fidelio de Beethoven. Il a accepté avec beaucoup de gentillesse de faire l'interview en français. Nous l'en remercions. Et le voici, durant cette interview, évoquer ses débuts, ses rencontres, sa carrière, ses carrières plutôt, de chanteur d'opéra et de leader. Jonas Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme on ne vous connaît pas bien encore en France, que vous nous parliez de vos débuts, de la façon dont vous avez découvert votre voix et dont vous avez commencé le chant, tout simplement.
Oh oui, vous avez raison, il est très simple, parce qu'avec 5 ans, je commençais à une chœur des enfants. Après, j'étais toujours dans les chœurs, j'ai chanté à l'école, et avec 15 ans, je crois, c'était mon premier solo dans un cantate du Telemann ou quelque chose comme ça. J'étais très stressé, parce que c'était la public, c'était mes collègues à l'école, et ça je crois peut-être la public plus dure. Et en plus, avec 15 ans, dans une situation un peu difficile, mais oui, j'ai à une Musikhochschule, alors une sorte de conservatoire à Munich, toujours à Munich. J'ai commencé là, et puis de 94, quand j'ai commencé avec un premier contrat à Saarbrücken, jusqu'à côté à la frontière française, pour 2 ans, et après il a vraiment commencé avec des théâtres du Stuttgart et plus en plus grand.
J'ai vu que vous aviez commencé des études de mathématiques au départ.
Oui, exact. Ça, c'était mon rêve, mon hobby, toujours, tous les sciences, alors le mathématiques, physique, tout ça. Donc, alors, j'ai commencé à l'université avec mathématiques, aussi parce que mon père n'était pas très content avec cette idée simplement deviendra un chanteur très connu. Parce que c'est un très grand risque. Je comprends maintenant pourquoi lui était contre cette idée du commencer directement à conservatoire. Mais déjà après le premier rang, j'ai compris que la mathématique, pour mon caractère, est trop théorique. Vraiment. Et je ne suis pas le type qui reste à son place pour tout le jour. Je dois faire vraiment des choses. Et à l'opéra, je le trouvais.
Jonas Kaufmann, vous venez d'un milieu musical ?
Oui, d'une famille qui aime la musique classique. Nous étions toujours dans l'opéra, dans le théâtre, dans les concerts, et en même temps à maison, dans la radio, toujours classique ou aussi d'enregistrement. Mon grand-père, par exemple, était un grand wagnérien, aussi au piano. Il a cherché à jouer les partitions de l'opéra du Wagner très lentement, encore le double temps que le 5 heures.
L'opéra de 10 heures.
Ah oui, exact. Non, mais c'était pour moi absolument normal, la musique classique. Et ça, ça, c'est très important. J'ai compris presque maintenant que combien il m'a donné cette opportunité de vraiment connaître bien toutes les façons de la musique classique. Alors pas seulement de se concentrer sur Bach, sur Mozart, sur un sujet spécial, mais du vraiment tous. Mon père, par exemple, il aimera Mahler, Shostakovich, alors des choses très lourdes, très fortes. Mon premier opéra a été Butterfly, je l'ai vu avec 5 ans. C'était vraiment très, très impressionnant pour moi. Mais comme enfant, ma mère m'a dit toujours, oui, tu as dit à 5, 6 ans, hein, comme les autres qui disent, je veux être un pilote ou un chef du train ou des choses comme ça. J'ai dit toujours, je veux être un chanteur. Mais ça, c'était une chose d'enfant. Mais j'étais pas prêt pour dire c'est ça ou rien d'autre. Donc j'étais toujours ouvert et j'ai pas entendu quelques pressions. Et c'est pour ça, je crois, que j'ai tenu jusqu'à maintenant la joie du chanter. Il n'est pas un travail. Et je crois qu'il est aussi pour la public visible. Si quelqu'un le fait parce que il a pas d'autre possibilité, ou il a fait parce que c'est la chose qu'il aime plus.
Quelles sont les figures artistiques qui ont le plus compté pour vous, Jonas Kaufmann, durant vos études, avant vraiment de commencer la carrière?
Alors, des figures en général, certainement, une des premières était Fritz Wunderlich, peut-être le dernier grand ténor avec une carrière internationale qui n'a pas seulement se concentré sur le repertoire allemand, qui donne beaucoup d'émotions. C'est comme Hermann Prey dans le répertoire du baryton. Lui aussi était vraiment connu pour ses interprétations émotionnantes. Donc ça c'était des figures de mes parents que j'ai entendu toujours. Et après, des autres, certainement, comme Placido Domingo, qui aussi a cette passion, mais en même temps, il chante tout le répertoire. Et ça, c'est très important pour moi, parce que je ne suis pas le type qui aime du faire chaque jour les mêmes choses, comme Placido, qui chantait presque tout ce qui est écrit pour un ténor.
Même baryton aujourd'hui.
Ah oui, exact, mais pas seulement aujourd'hui. Il a commencé comme baryton. Il revient maintenant comme baryton. Mais ça c'est un rêve. Je ne vais pas dire pour un demi-siècle, mais presque. Il a chanté et chanté toujours avec une tellement haute qualité. Très impressionnant. Donc,
Des professeurs,
oui, qui m'ont donné des directions. Par exemple, James King, j'ai fait des masterclass avec lui, vraiment important pour moi, pas techniquement, mais la facilité du chanter le répertoire allemand. Vraiment fort, vraiment lourd, vraiment plein, mais avec presque rien de force. C'est seulement comme ça, si comme il est la chose plus facile. Mm-hmm. 68 ans, comme une jeune. Et autre, Metternich, Joseph Metternich, un baryton qui a fait une grande carrière internationale, surtout dans les États-Unis. lui m'a donné le première idée d'un style, d'une manière ancienne, vieux, dans un style des grands temps de l'opéra, à l'italien un peu. Et en plus, un professeur très inconnu, Michael Rhodes, que je trouvais en Allemagne, il vient de New York, mais aussi qu'il a commencé lui-même à New York dans les années 40 et 50, avec tous les grands chanteurs réfugiés de la guerre. Et lui, il chante comme... oui, comme un vrai enregistrement dans un style très élégant. Du début, j'étais un peu irrité parce que c'était pas le chose qui normale. Mais il est très élégant et en même temps très bon bien pour la salut de la voix, parce que la voix est toujours portée bien et pas maltraitée. Donc c'est un style, une manière et surtout un technique qui m'a donné la possibilité d'être capable de chanter toutes les choses que je chante maintenant, tout ce répertoire, tous les angles différents de le répertoire ténor. La base vraiment est une technique très profonde pour avoir la capacité vocalement de faire tout ce répertoire, et en plus c'est une intérêt du découvrir toujours de nouvelles choses. Je crois que je suis un caractère qui n'aime pas de répéter les mêmes choses. Et quand je suis ennuyé, je perds l'énergie, je perds l'esprit, et ça c'est vraiment dommage parce qu'il fait une grande part de la joie, de la qualité de mes interprétations. Et en plus, je crois pour le salut de ma voix, que je mélangeais, je vais faire un bien mix dans mon calendrier pour ne pas concentrer trop sur un sujet et tenir la flexibilité de la voix, en même temps la flexibilité du style, parce que je crois tous les répertoires différents profitent aussi de les autres. Par exemple, le répertoire allemand a maintenant une certaine tradition du être chanté vraiment lourd, presque staccato, c'est comme déclamé et plus que chanté. Et je crois, ou je suis sûr que l'idée de cet répertoire du Wagner surtout, ou Strauss, était pas du déclamé, bien sûr, il est très concentré sur l'interprétation des textes, ça c'est évident, mais en même temps, du tenir une belle qualité du voix, du chanter belle les phrases, du avoir une élégance italienne. Et par exemple, le répertoire français peut-être profite de le répertoire allemand parce que dans le répertoire français sont beaucoup de facettes du couleur et du voix, parce que les compositeurs français ont suivi le développement d'un caractère aussi avec la musique, aussi avec le style ou la mode qui on écrit la voix. Ça veut dire, par exemple, un José, Don José, dans Carmen, il commence très lyrique, il deviendra jusqu'au fin, parce que d'un caractère très naïf peut-être, à une meurtre. Et cette meurtre, le dernier acte, chante comme un heldentenor, parce que il est complètement fou, il est complètement différent que du début. C'est la même chose presque avec tous les opéras français. Donc, j'ai besoin d'un ténor lyrique, j'ai besoin d'un ténor français pour la voix mixte, et j'ai besoin d'un ténor allemand, presque un Helden baryton. Par exemple, Damnation de Faust, il commence très lyrique. Après, dans le duo, c'est le ténor léger, le ténor français. Et après, c'est les barytons. Dans la Nature immense, c'est un air baryton.
Il y a une chose aussi, c'est la langue elle-même. La couleur des nasales, par exemple, qui sont si difficiles en français, vous saisissez tout comme si c'était votre langue maternelle.
Oh, merci beaucoup. Ça, c'est très gentil. Mais non, je trouve qu'elle est vraiment évidente pour interpréter bien une pièce, une rôle, une caractère, du ne pas seulement savoir... la situation émotionnellement générale, mais du vraiment connaître chaque parole, parce que c'est comme le compositeur la connaît et il a changé l'instrumentation, la mélodie vers les paroles. Et donc, ce n'est pas seulement une direction générale, mais c'est un développement, c'est une continuation qui est du début au fin, toujours s'échange. Il est évident que pour bien interpréter, il doit comprendre bien le texte. Bien sûr, c'est Onyegin, le Lenski que je voudrais faire maintenant, et pour le futur, par exemple, le Hermann dans le Pic d'âme, c'est un rôle formidable, mais je crois que je dois connaître plus bien le russe pour le chanter, ou pour l'interpréter le bien.
Aucun rôle russe pour l'instant ?
Non, aucun rôle russe, non, ça c'est clair, malheureusement, jusqu'à maintenant, je ne parle pas de russe, donc...
Il y a cette phrase d'André Tubeuf que je voudrais vous lire, je ne sais pas si ça correspond à la réalité de ce que vous allez chanter, mais on attend de lui du plus rare, qu'il soit le bandit dans la Fanciulla dell'Ouest, dans Francesca da Rimini, le Paolo des rêves de Dante, Palestrina de Pitner, un jour. Ce sont des futurs rôles, ça ?
Oui. Je crois que
c'est prévu déjà.
Non. À Palestrina, par exemple, c'est une des choses déjà proposées à quelques théâtres. Mais le problème est que Palestrina, c'est une pièce qui n'est pas dans le mainstream. Il est essentiellement surtout les théâtres avec la tradition allemande, comme à Vienne ou à Berlin peut-être, qui peut faire une production avec une pièce comme ça. Et ça sera difficile à trouver. Mais les autres, je crois, bien sûr, je ne sais pas où je me finirai, mais peut-être si je suis prudent avec mes décisions du futur, je réussis à arriver jusqu'au fin du répertoire teneur, ça veut dire jusqu'à Othello, Tannhäuser, Tristan, sont les derniers rôles.
Siegfried.
Ah, les Siegfried, oui, les Siegfried avant le Tannhäuser déjà, je crois.
Ça correspond à un ordre très...
Non, c'est pour chacun, c'est peut-être un ordre différent. Pour moi, si comme ma voix est un peu sombre, un peu barytonale, Siegfried est difficile parce qu'il est lourd et bas.
Dites-moi, Jonas Kaufmann, quand on chante Florestan, par exemple, et que, supposez, vous avez Tamino, quelques semaines après, est-ce que la voix doit se reposer, ou alors est-ce qu'on peut très bien, d'un soir à l'autre, enchaîner deux rôles aussi, enfin, avec quelques soirs de repos, peut-être, est-ce qu'on peut enchaîner, comme ça, deux rôles aussi différents, facilement ?
Je ne vais pas dire qu'il est facile, non, c'est pas facile, mais...
C'est possible,
mais c'est pas le repos. Je dois faire des vocalises, je dois pousser ma voix doucement d'une direction à une autre. Et ça dure 2-3 jours jusqu'à je suis me réglé pour être capable à faire cet autre répertoire. Et jusqu'à maintenant, il est pas de problème. J'espère qu'il reste comme ça pour le futur.
Le lead, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? C'est un repos, une récréation?
Non, le lead, oui, c'est une récréation vocalement, mais pas un repos, parce que le lead est peut-être la chose plus compliquée du tout, c'est parce que je suis seul. Seulement accompagné d'un piano, ça veut dire d'un côté, il me donne la possibilité de m'exprimer, réagir spontanément à mes émotions, de faire des choses extrêmes, aussi du volume, par exemple, je peux chanter 6 pianos qui avec un orchestre il est presque impossible, mais en même temps je suis seul et c'est aussi une grande pression. Peut-être c'est une très bonne médecine pour la voix et un contrôle de voix pour savoir si je suis toujours capable de m'exprimer en toutes les facettes et toutes les couleurs possibles d'un voir. Oui.
Morgan de Richard Strauss par Jonas Kaufmann, ténor, Helmut Deutsch au piano. C'est extrait d'un disque paru chez Harmonia Mundi, dans lequel également j'ai pris le premier extrait qui a ouvert cet entretien, réalisé par Géraldine Prüttner, que je remercie, Zu Eignung, la dédicace, le premier de ces deux leaders de Strauss qu'on entendait ce soir, dans le cadre de cet entretien avec Jonas Kaufmann. Je vous signale que deux autres extraits provenaient d'enregistrements non commercialisés. Il y avait la damnation de Faust, qui n'est pas extraite du récital des cas de Jonas Kaufmann, mais d'une bande-son, d'une captation réalisée en 2004 à la Ruhr Triennale, où Jonas Kaufmann chantait le rôle de Faust. L'orchestre, c'était celui de la SWR, dirigé par Sylvain Cambrelin, enregistrement donc de 2004, et puis également un extrait, Pace non trovo, extrait des sonnets de Pétrarque de Liszt, enregistré tout récemment au Palais Garnier, le 9 novembre 2008. Vous avez pu entendre l'intégralité de ce récital sur France Musique il y a quelques jours. C'était également Helmut Deutsch au piano et tous les autres extraits qu'on entendait, à savoir les maîtres chanteurs, à savoir Werther de Massenet, Tosca de Puccini. Eh bien, ces extraits sont tirés du disque, du récital Romantic Arias de Jonas Kaufmann, l'orchestre philharmonique de Prague, dirigé par Marco Armiliato, et c'est paru chez Decca. Je vous signale que la semaine prochaine, vous retrouverez Jonas Kaufmann dans le rôle de Florestan, de Fidelio de Beethoven, enregistré tout récemment à l'Opéra de Paris, sous la baguette de Sylvain Cambrelin, avec à ses côtés la soprano allemande Angela Denocke dans le rôle de Léonore.